Alors, bon matin à tous. Bonjour à ceux qui sont sur la toile. Et merci à Matt et Carmen d'appeler ça la toile. Alors, c'est juste un petit gag interne entre nous ici. Alors, on vous souhaite nos plus sincères salutations. Et si jamais vous êtes dans les parages, venez, c'est ouvert à vous, c'est ouvert à tous. Et si vous venez pour la première fois, nos cafés spéciaux sont pour vous, gratuits. Alors, gênez-vous pas, vous êtes les bienvenus. Alors, j'ai besoin d'une arme secrète. Aujourd'hui, on va parler de mettre en valeur la vérité. Je vous invite à tourner dans la deuxième lettre de Jean, l'apôtre Jean, la deuxième lettre. On a vu ensemble la première lettre de Jean et Normand, il y a quelques années, a enseigné sur la troisième lettre de Jean. Donc, il restait la deuxième lettre de Jean à couvrir et c'est ce que je vais faire ce matin. On a vu que c'est un chapitre. Ça va aller quand même assez rapidement. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on approfondit les textes, lorsqu'on consulte des gens qui ont consacré leur vie à comprendre le contexte, à aller voir dans les langues originales, comme dans le Nouveau Testament, c'est le grec, et comprendre toutes les nuances, toutes les beautés, et on peut être émerveillé en lisant la deuxième lettre de Jean. On peut la lire très rapidement parce que c'est un chapitre, 13 versets. Mais quand on s'arrête, moi j'ai découvert des belles petites perles que je veux vous partager ce matin. Des belles petites perles qui vont vraiment faire du bien à nos cœurs et en même temps aussi nous lancer quelques défis. Et mettre en valeur la vérité, c'est quand même spécial. Parce qu'il y a un film qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle « Menteur ». Hein? Et parfois, bon, moi j'aime, vous savez, j'aime écouter les nouvelles. Et après les nouvelles... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a sucré-salé. Et j'ai vu la semaine dernière, à sucré-salé, juste avant le lancement du film Menteur avec Louis-José Houde, qu'Alexandre Farley, un de nos pasteurs, apprécie beaucoup, et Antoine Bertrand, qui est un comédien, à mon avis, qui est très talentueux. Et donc, on a passé en entrevue un des acteurs principaux, Louis-José Houde, pour lui demander justement... parce qu'il incarne le rôle d'un mythomane, quelqu'un qui n'est pas capable de s'empêcher de mentir. Et on lui pose la question, dans la vraie vie, Louis-José, parce que tu es un menteur, comme dans le film. Et savez-vous qu'est-ce qu'il répond? Il dit, « Je raconte des petits mensonges vraiment insignifiants, mais sur une base très régulière. » Puis là, il dit, « Ouais, mais là, si une fille est intéressée à toi, peux-tu te faire confiance? » Elle pose une question dans le genre. Mais il dit, « Pour les grosses choses, je suis honnête. Pour les choses importantes, les grands sentiments, pour les points importants de la vie, je suis quand même assez honnête. » Et ça nous montre que, écoutez, on est dans un monde d'images comme jamais il y en a eu. Aujourd'hui, les images sont sur des écrans. À l'époque de Jean, savez-vous où est-ce qu'il était les images? Évidemment, sur des peintures, sur des dessins, mais beaucoup d'images étaient dans la tête. Les gens s'assoyaient autour d'un raconteur, puis tout l'univers de l'imaginaire se passe à l'intérieur de la tête. Et il y a même des gens qui ont fait des études là-dessus, sur toute la question des images, que de voir une image, ça freine notre activité cérébrale parce qu'on devient plus paresseux, on se livre à l'image qui nous est proposée plutôt que d'en inventer une. Mais dans ce monde d'images, il y a des bienfaits, parce que c'est incroyable maintenant avec les films d'animation, comment que ça a progressé, la technologie va tellement loin. Mais il y a un contrebalan à ça dans le monde d'images. À un moment donné, ça nous amène à certains égards et à certains moments à projeter une image de nous-mêmes plutôt que de vivre dans la vérité. Et ce n'est pas d'hier qu'on remet en question la vérité, hein, parce que même dans Jean 18, on voit que Jésus a une conversation avec Pilate. Puis il dit qu'il est la vérité et Pilate va répliquer, « Mais qu'est-ce que la vérité? » Alors, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui est vrai, dans le fond? Et évidemment, plus on s'éloigne de la pensée de Dieu, plus on s'éloigne des principes de Dieu, plus on s'éloigne des repères que Dieu nous a donnés dans sa parole, eh bien, plus on va s'éloigner de la vérité. C'est inévitable. Et donc, si on n'a plus de repères, la vérité devient circonstancielle, elle devient accessoire. On l'utilise seulement quand elle nous est utile. Parce que ce qui prime, c'est l'image, l'illusion, ce qu'on projette. Mais ça finit par nous atteindre, nous rattraper, parce que si on ne peut plus être authentique, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on vit en dehors de ce qu'on est, puis en dehors de ce que Dieu veut pour nous. Et mettre en valeur la vérité, c'est lui donner une place de premier choix. On lui accorde de la valeur. Et lorsqu'on accorde la valeur à la vérité, savez-vous qu'est-ce qu'on découvre? Notre besoin de l'Évangile. C'est inévitable. Parce que si je suis face à la vérité, étant un pécheur, étant un incomplet en moi-même, étant défaillant devant Dieu, de par ma nature, de par mes fautes, de par mes péchés, de par ma désobéissance, de par ma rébellion face à Dieu, bien, inévitablement, j'ai besoin de l'Évangile. Parce que je ne peux pas vivre dans la vérité sans l'Évangile. C'est inatteignable, la vérité à l'état pur. C'est au-delà de nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce poids-là ne repose pas sur nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Puis on va voir ça au travers le passage, dans un contexte où l'apôtre Jean écrit à une dénommée Curia, un contexte où est-ce qu'il y avait des enseignants ou des prédicateurs itinérants qui commençaient à propager. Ils allaient de maison en maison parce qu'à l'époque, l'Église se réunissait dans des maisons, donc ils se promenaient, ils allaient dans des maisons, ils étaient accueillis, ils étaient logés, nourris. Et là, ils partageaient leur enseignement et ils remettaient en question l'enseignement des apôtres en disant, « Ah, Jésus n'est pas nécessairement 100% homme, 100% Dieu. » Et là, il y avait des gens qui commençaient à être troublés parce que ça allait à l'encontre de l'enseignement des apôtres. Et Jean en a parlé dans sa première lettre et il veut corriger le tout. Et il écrit une seconde lettre à un groupe qui est dans une maison pour justement rappeler à ce groupe-là de rester attaché à la vérité. Et n'oubliez pas que Jean, lui, a été un témoin du ministère de Jésus-Christ. Il l'a entendu, il l'a vu, il l'a touché et il a été témoin de ses miracles, témoin de son amour, témoin de sa patience envers eux. Témoin de leur niaiserie, parce que les disciples et les gars ensemble, je veux dire, ça ne devait pas toujours être rose, tu sais. Tu sais, t'as un zélote qui, lui, est zélé pour la nation, puis t'as un autre, un traître qui travaille pour les Romains. Dieu les met ensemble, le Seigneur les met ensemble. Fait que ça ne devait pas être toujours facile entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est que la lettre s'adresse à une dénommée Curia. C'est curieux, n'est-ce pas? Alors, Curia... Certains pensent que, parce que le mot « curias », c'est le féminin de « curios » dans le grec. « Curios », c'est traduit dans nos Bibles par « maître »,« seigneur ». Quand on s'adressait au Seigneur et on l'appelait « seigneur », quand on s'adressait à Jésus et on l'appelait « seigneur », c'est le mot « curios » qui est là. Et donc, le féminin de « curios », c'est « curia ». Donc, l'épouse de Christ, c'est l'Église. Alors, certains se sont dit, est-ce que ça se pourrait que c'est tout simplement une métaphore en s'adressant à Curia, à l'épouse qui est là et à ses enfants qui sont les disciples, c'est une lettre à une église. Maintenant, la plupart qui appuient cette façon de voir les choses-là s'appuient sur le verset 13 à la fin quand il dit, « Les enfants de ta sœur, choisis elle aussi, te saluent. » Pourquoi ce n'est pas sa sœur qui les salue, mais les enfants de sa sœur? Donc, peu importe, qu'on adhère à ce point de vue-là, à cet angle-là, que ça soit adressé à une personne spécifique, Curia, qui a des enfants, ou que c'est une image de l'Église qui se réunit là, nous, en tant que disciples, lorsqu'on lit la lettre, eh bien, les principes, on est appelé à les appliquer, évidemment, dans le contexte original, ou est-ce que dans le contexte que l'apôtre l'écrivait. Dans les deux cas, peu importe si on prend un angle ou l'autre, nous, dans notre lecture du texte, dans notre compréhension du texte, l'obéissance à laquelle Dieu nous appelle à se soumettre et à marcher ne change rien à ce moment-là. Mais je voulais tout simplement vous apporter ce point-là. Je trouvais ça intéressant que c'était une belle analogie. C'est une courte lettre qui a été écrite sur seulement une page, un papyrus, parce qu'il y a 13 versets. Et c'est un peu un condensé de sa première lettre. Et il veut mettre en garde les auditeurs ou ceux qui vont lire ou entendre la lecture de cette lettre-là contre, justement, des faux enseignants qui pervertissaient le fait que Christ, le Messie, était 100% homme et 100% Dieu. Et ce que j'aimerais qu'on voit dans cette lettre de 2 Jean, c'est trois choses. Eh bien, que mettre en vérité, mettre en valeur la vérité, ça produit de la joie, de l'amour, puis ça nous amène à être en communion et, avec la vérité. Alors, on va se recueillir et après ça, on va passer à la lecture de 2 Jean. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour cette lettre. Merci parce que il y a tellement de belles choses dans ce court texte. Et merci parce que tu veux nous appeler à vivre et à marcher dans la vérité. Parce que c'est là qu'est notre délivrance, c'est là qu'est notre guérison, c'est là qu'est, que se trouve la joie, c'est là qu'on découvre un amour authentique. Dans la vérité, Seigneur, tu nous aimes malgré qu'on est pécheur, malgré qu'on te déçoit, malgré qu'on pourrait vivre autrement. Mais lorsqu'on découvre ton amour qui est basé sur cette vérité, eh bien, ça nous stimule, ça nous pousse, ça nous amène à désirer encore davantage connaître cette vérité. Merci, Seigneur, pour ta parole. Dans le nom de Jésus, amen. Alors, 2 Jean, verset 1, chapitre 1, verset 1. « De la part de l'Ancien à la Dame qui a été choisie et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Nous, nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et que sera avec vous pour l'éternité. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec vous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. Or, l'amour consiste à vivre conformément à ces commandements. Tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris depuis le début. En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'antéchrist. Faites attention à vous-même. Ainsi, ne perdons pas le fruit de notre travail, mais recevons une pleine récompense. Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous et ne le saluez pas, car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. J'espère venir chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, choisis elle aussi, te saluent. Et donc, le verset 1, on voit que de la part de l'Ancien à la Dame qui a été choisie à ses enfants que j'aime dans la vérité, voyez-vous, le mot « vérité » est là, et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Il se définit comme un vieillard, comme un homme d'expérience et un ancien, et à l'époque, être vieux, être âgé, ça avait de la valeur. Aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est ce qui est nouveau. C'est ce qui change, c'est ce qui a une autre allure, ce qui est au goût du jour, ce qui est jeune. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, quand on était vieux, quand on avait des cheveux blancs ou des cheveux gris, eh bien là, ça avait de la valeur. Les gens, quand un vieillard rentrait chez les gens les plus civilisés, un vieillard rentrait, les gens se levaient debout. Parce que c'était quelqu'un qui était digne d'honneur. Il y avait une histoire, il y avait une expérience de vie. Certains même pouvaient dire que c'était, aujourd'hui, avec le recul, on les appelle les bibliothèques vivantes, parce qu'il y avait plein de choses à raconter. Et il commence en disant qu'il est un ancien vieillard, en d'autres mots, dire, je ne suis pas né de la dernière pluie, là. Et ce que je vais dire, c'est important. Et ils vont arriver parce que lui, son but, c'est d'amener ses auditeurs, parce que cette lettre-là était lue, puis il y avait des gens qui écoutaient la lecture de la lettre. Et ce qu'il voulait, c'est de vraiment établir que la vérité, c'est le fondement. Et si on s'appuie sur la vérité, on va écouter des prédicateurs qui reconnaissent Jésus selon la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne définit pas c'est quoi la vérité. Le mot qu'il utilise, c'est ce qui est vrai sans altération, dénué de superstition, qui n'est pas altéré par des impressions. En d'autres mots, la vérité, c'est la façon limpide que Dieu voit les choses. Parce que ce qui est vrai, ce n'est pas mon point de vue. Ce qui est vrai, c'est le point de vue de Dieu. Ça, c'est la vérité. Et il va poursuivre en disant, « À la dame qui a été choisie et les enfants que j'aime dans la vérité. » C'est intéressant parce qu'il prend le mot « agapé ». Il parle à une dame, donc il y a une délicatesse. Il utilise un mot qui fait référence à un amour inconditionnel, qui n'est pas basé sur les émotions, un amour sacrificiel, un amour que tous les chrétiens sont appelés à vivre et à partager parce qu'ils l'ont reçu de Dieu. Donc, il ne cherche pas à créer un lien qui va plus loin que l'amour que Christ approuve entre eux. Il aime selon la vérité ce que le Seigneur dit des choses conformément à ce que Dieu est. En d'autres mots, si on prend une traduction québécoise du fait qu'il dit justement à cette dame et à ses enfants que j'aime dans la vérité, en québécois, on dirait « je t'aime de l'amour du Seigneur » ou « je t'aime dans le Seigneur ». C'est un peu comme la traduction qu'on pourrait faire de ce passage-là. Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, qui ont expérimenté la vérité. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Jean est en train de démontrer que ceux qui marchent dans la vérité sont aimés par ceux qui ont expérimenté la vérité. Ça nous réjouit toujours de voir un chrétien qui est rempli de l'Esprit, qui est rempli de l'amour de Dieu, qui sa vie dégage la personne de Jésus-Christ. Puis lui, il s'est réjoui, il se réjouit. Il les aime parce qu'ils voient la vérité de Dieu au travers d'eux. Et on va voir un peu plus loin que ça produit chez lui énormément de réjouissance. Parce que la source de cet amour, c'est la vérité. Ce qui les connecte, Jean, cette dame-là et les enfants, c'est la vérité. Au verset 2, il dit, « Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. » Et ça, c'est intéressant parce que ici, Jean, et ça, c'est une des petites perles, qui dit qu'il parle de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Et vraiment, le mot « demeure », c'est de demeurer, c'est d'habiter. Et ce qu'on découvre dans le grec, c'est comme si la vérité est reçue comme un invité bienvenu. Quand la vérité habite en nous, parce que lorsqu'on est un enfant de Dieu, on est né de nouveau, on a reçu l'Esprit de Dieu qui habite en nous, eh bien, la vérité, elle est là en nous, elle veut faire son œuvre. Elle veut opérer des guérisons dans nos cœurs, elle veut nous délivrer des mensonges, elle veut nous amener à voir le point de vue de Dieu. Et cette vérité-là, elle est appelée à être bienvenue dans nos cœurs. Vous savez, il y en a des invités qui peuvent être, par exemple, parce qu'on ne choisit pas ceux qui sont dans notre famille, ou on ne choisit pas nos voisins, puis il y a des invités qui sont plus agréables que d'autres. Mais ce qui est intéressant, moi, je me dis, OK, comment je perçois la personne de Jésus qui vit en moi, la vérité qui vit en moi? Quel genre d'invité qu'il est dans mon cœur? Et ça, c'est un bon point à analyser, comment je perçois la vérité. Et vous savez, quand quelqu'un vient chez vous, peut-être que tu n'as pas fait ton lit, puis tu vas fermer la porte de la chambre, tu ne veux pas qu'il voit, tu ne veux pas qu'il rentre. Est-ce que Jésus, c'est un invité comme ça? Tu peux visiter, tu peux te promener dans la maison, tu peux aller aux toilettes, mais dans cette chambre-là, tu ne peux pas entrer. Est-ce qu'il est bienvenu dans toutes les sphères de notre âme, dans toutes les sphères de notre cœur? Et ça, c'est une belle question à se poser. Vous savez, dans notre culture québécoise, on est vu comme une culture accueillante. Hein? On voit beaucoup de publicité, de nourriture, de gens autour de la table. Et c'est caractéristique des Québécois, même parce que j'entendais une entrevue que dans le reste du Canada, il n'y a pas autant de festivités autour de la table. Et même, à un moment donné, je me souviens, on était avec des pasteurs américains, puis ils étaient étonnés qu'une fois qu'on avait fini de manger, on restait autour de la table, puis on continuait à parler. Les autres, tu dis, quand on a fini de manger, on s'en va. Mais puis pour nous, on le prend pour acquis. Mais quand on a le reflet de d'autres gens, des gens de d'autres cultures, de d'autres régions, eh bien, ça nous saute au visage. Et je me disais, mais maintenant, c'est tellement devenu familier lorsqu'on est invité, on prend pour acquis, puis même il y a des comportements, on ne se rend pas compte qu'on agresse des gens. Ou, tu sais, quand je dis agresse, il y a des degrés, là, tu sais, des fois, ça, c'est assez léger. Mais il y a des sites, même Recettes du Québec, et même de même Sélection du Writer's Digest, eux autres, qui ont les 10 règles que suivent les invités bien élevés. C'est rendu qu'il faut mettre des règles. Recettes du Québec, il y a 5 règles à suivre quand on vous invite. Par exemple, pourtant, c'est des choses de base. Répondre à l'invitation rapidement. Quelqu'un t'invite. Hey, ça fait 2 semaines que tu ne m'as pas répondu. Apporter un cadeau d'hôtesse, tu sais, pour simplement, hey, c'est un honneur d'être invité chez quelqu'un. Offrir de l'aide, tu sais. Je peux-tu t'aider à servir la table, desservir la vaisselle, etc. Aviser à l'avance de toute particularité alimentaire. Tu sais, je ne sais pas, moi, tu es allergique au blé, tu ne le dis pas, puis on fait un spaghetti. Tu sais, c'est comme, tu arrives sur place, « Ah, oh, je ne te l'ai pas dit. » Ça peut créer un inconfort, par exemple. Puis être ponctuel, tu sais, d'arriver assez proche de l'heure, ça, c'est inévitable. Mais ça, c'est des règles de base, tu sais. Puis, mais maintenant, ça, c'est dans le contexte de la vraie vie. Mais face à Jésus-Christ, quel type d'invité il est, tu sais? Il réside comme un invité. Maintenant, parce qu'il demeure en nous. Et c'est pour ça que notre relation avec notre invité est importante à mettre au point avec lui. Quand la vérité est bienvenue dans notre cœur, ça veut dire que Jésus-Christ a un droit de veto, il a un droit de parole, il a accès à tous les lieux. Et le problème, c'est que sur cette terre, dans notre réalité, la vérité, parfois, ça fait mal. Surtout si on se réfugie dans le mensonge, dans l'illusion ou la peur. Mais ce qui me réjouit, moi, c'est que dans l'éternité, on va pouvoir vivre constamment dans la vérité, parce qu'il n'y aura plus d'illusions, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de plaintes, il n'y aura plus de souffrances. Et on va pouvoir vivre parfaitement la vérité. Mais en attendant, on peut la vivre, pourquoi? Parce qu'elle est accompagnée de la grâce, de la compassion, de la paix et de l'amour de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 3. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Donc, Dieu veut nous faire goûter la vérité qui est liée, qui est mariée avec l'amour pour qu'on puisse expérimenter la grâce, la compassion et la paix de Dieu. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le mot « grâce » ne dépend pas de celui qui la reçoit, mais dépend de celui qui la donne. Et à l'époque, avant que le Nouveau Testament soit écrit, le mot « grâce » faisait référence à quelqu'un qui donnait un cadeau ou un bienfait à un ami ou un proche, mais sans que la personne le mérite. C'était vraiment une expression de libéralité de la part du donneur. Mais ce que le Nouveau Testament a amené comme éclairage face à ce mot-là, c'est que le donneur s'est présenté comme quelqu'un qui donne à ses ennemis. Et ça, c'est une marque de Dieu qui est extraordinaire. Et il veut faire preuve de miséricorde, donc remettre sur pied celui qui est à terre. Le Dieu de miséricorde veut guérir les conséquences du péché dans notre vie. Et il veut nous donner la paix. La paix, le mot paix, c'est pour associer, réunir, pour produire une liaison ou un alliage qui est indissoluble. Donc, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une tranquillité, une paix entre nous dans notre union. Puis, et ça, ça nous amène à se poser des questions aussi sur le plan relationnel. Est-ce qu'avec mes amis ou avec mon conjoint, ma conjointe, est-ce qu'il y a des éléments qui nuisent à cette paix-là? Est-ce que, justement, on est lié, on est uni dans un lien de paix? Et, vous savez, j'expliquais à quelqu'un que, je vous ai déjà raconté que moi, j'ai reçu l'ablation de l'ongle sur mon gros orteil gauche. Et si vous voulez voir mon orteil, je vous la montrerai tout à l'heure. Mais je n'ai pas d'ongle dessus. Tu sais, ça, c'est sans l'ongle d'un doute. Et faut le voir pour le croire. Mais avant qu'on fasse l'ablation de l'ongle, chaque côté de l'ongle, ça saignait, ça incarnait. Puis, à cette époque-là, c'était l'époque où est-ce que tout le monde portait des bas blancs. Alors, quand j'enlevais mes souliers, il y avait toujours un cerne rouge brunâtre, tu sais, parce que ça saignait. Mais je n'ai jamais eu autant de gens qui m'ont pilé sur le pied à ce moment-là. Je ne me suis jamais autant cogné le pied à ce moment-là. Mais savez-vous quoi? Je me fâchais parce que quelqu'un me pilait sur le pied. Je me suis dit, crème, il est bien sans dessin, il ne fait pas attention. Manque de respect. Manque de délicatesse, ça, c'était mon jugement dans ma tête. Une fois qu'il y a l'opération, ben, quand ils ont mis le nitrate d'argent, là, ça brûlait, mais je vous passe les détails. Quand j'ai eu l'opération, puis qu'à un moment donné, ça a cicatrisé, ça a guéri, je me cogne l'orteil maintenant, quelqu'un me pile sur le pied, ça me fait plus mal. C'était-tu la personne qui était méchante? Ou c'était parce que la personne touchait une blessure. Et ça, c'est important. Parce que dans ce qui nous distance, souvent, on reproche à l'autre de nous blesser. Mais est-ce que ça ne serait pas que quelqu'un touche à une blessure qui est déjà existante? Et ça aussi, c'est une autre réflexion à méditer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la grâce, la miséricorde et la paix nous est donnée par la vérité et dans l'amour. Parce que l'amour véritable ne peut pas vivre, ne peut pas exister sans la vérité. Et la vérité ne peut pas exister sans l'amour parce que Jésus est la vérité. Et Dieu est amour. Mais ce qui est intéressant, c'est que la grâce, la miséricorde et la paix, elle nous est donnée, elle vient de Dieu. On y a accès parce qu'on a accès à lui en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est pour ça que l'héritage de la vérité, c'est la joie. Et qu'est-ce qu'on peut hériter lorsqu'on inspire les gens à marcher dans la vérité? Hein? Quand on inspire les gens à marcher dans la vérité, en tant qu'enfant de Dieu, on produit de la joie. J'ai éprouvé une très grande joie à rencontrer quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, conformément au commandement que nous avons reçu du Père. Et ici, c'est une joie qui est émerveillée. L'apôtre Jean est émerveillé. Imaginez, lui, là, il commence à être vieux, puis il voit que dans les églises, il y a des gens qui commencent à enseigner un autre enseignement, commence à dire, non, Jésus, ce n'est pas vraiment le Messie. Jésus, oui, il était spécial, il y avait peut-être un esprit spécial sur lui, mais ce n'est pas Dieu fait homme. Et lui, il est vieux, puis il voit ça, puis il a œuvré comme presque toute sa vie à faire connaître le message, puis là, il voit que ce message commence à être corrompu, puis là, il est obligé de se battre, pas au sens littéral, mais se battre contre des faux raisonnements, et là, il rentre en contact avec des gens qui marchent dans la vérité, qui manifestent la vie de Christ. En d'autres mots, que leur mode de vie, c'est la vérité. Leur mode de vie, c'est la parole de Dieu. Parce qu'ils sont en communion avec lui et le Seigneur fait un travail dans leur vie. Il y a une œuvre que la grâce opère, que l'Évangile est en train d'opérer. Parce que, comme je vous dis, on ne peut pas vivre la vérité sans l'Évangile. Sinon, on marche selon nos propres forces, nos propres moyens. Et ce n'est pas nos propres forces que Dieu veut déployer ou mettre en valeur. C'est son œuvre qui est une œuvre de grâce. Et il est émerveillé d'avoir les enfants de Curia avoir un mode de vie qui est basé sur la vérité. Et ça, ça doit nous inspirer à marcher dans la vérité parce que lorsqu'on marche dans la vérité, ça produit de la joie chez les gens autour de nous. Ça produit un émerveillement. Ça produit vraiment un enthousiasme. Et il est en train de dire, il est en train de vraiment bien placer ses jetons, il est en train de dire que l'approbation apostolique là, est donnée à ceux qui ont un mode de vie qui est basé sur la vérité. Il est en train de préparer les auditeurs qui vont lire un peu plus loin. Et c'est pour ça que tôt ou tard, notre marche dans la vérité va finir, tôt ou tard, par produire de la joie chez des gens autour de nous. Et le problème, c'est qu'on vit dans une société d'images, comme je vous disais, d'illusions, où est-ce qu'on doit montrer qu'on est un bon mari, une bonne épouse, un bon ami, qu'on doit tout savoir, qu'on doit être préoccupé par l'environnement, qu'on doit consommer sans arrêt, mais être mince. Mange dans tous les restaurants, mais sois mince. C'est comme... Il faut qu'on ait une image parfaite, mais celui qui vit dans la vérité, qui a appris à grandir dans la grâce, apprend à accepter ses imperfections sans les faire subir aux autres. Ça, c'est la maturité. Apprendre à accepter tes imperfections, mais à essayer de ne pas les faire subir aux autres. Ça, c'est une personne mature, une personne qui a grandi dans la vérité. Et puis ça prend des années à être exposé à la vérité et à dépendre de la grâce de Dieu. Dieu veut qu'on marche dans la vérité pour dépendre de l'Évangile. On le voit dans sa première lettre, dans 1 Jean 1:7, qui produit de l'amour pour Dieu, 1 Jean 4:10, un amour pour les autres, 1 Jean 3:16. Et le deuxième fruit de la vérité, c'est l'amour. Et maintenant, voici ce que je te demande, chère dame, c'est que nous aimions les uns les autres. Ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous avons reçu dès le commencement. Et il veut que continuellement, on puisse, que la vérité puisse manifester un amour qui est conforme au verset 6 à ses commandements. Et c'est dans cet amour-là que Dieu veut qu'on marche, comme on l'a appris depuis le début. En d'autres mots, il est en train de dire, tel est le commandement dans lequel vous devez marcher, au verset 6, ça veut dire d'être sous la domination de l'amour. C'est que l'amour, c'est maintenant mon commandant. L'amour, c'est mon général. C'est l'amour qui me guide, qui me commande. Et lorsque cet amour-là, elle est exprimée, elle est vécue premièrement, parce que Dieu veut que j'aime de l'amour qu'il a pour moi, bien, ça va produire un amour qui est dans la vérité, qui est authentique. Et ça va inévitablement nous amener à être en communion avec ce qui est vrai et avec ce que Dieu approuve. Au verset 7, il dit « En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne connaissent pas que Jésus est le Messie venu dans le monde. Voilà ce qui caractérise l'imposteur. Faites attention à vous-même ainsi. Nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. » Et là, il est en train de dire que c'est un peu, quand il dit de ne pas perdre cette récompense-là, c'est comme un salarié qui se laisse distraire par toutes sortes de choses. Mais donc, il n'a pas eu le temps de finir son travail, puis il arrive à la fin de la journée, puis il va voir la personne qui l'a engagé, il dit « Bien là, c'est l'heure de la paye. » Mais il dit « Je ne pourrais pas te donner le plein salaire, tu n'as pas fini le travail. » Puis il est en train de dire, il n'est pas en train de parler de perte de salut ici, il est en train de parler des récompenses, d'un poids éternel de gloire qui va être moins grand, moins intense, parce que justement, on s'est laissé détourner par soit un faux enseignement, ou justement par de mauvaises influences. Et puis, c'est important de ne pas perdre de vue ces choses-là, parce que Paul va dire dans 2 Corinthiens 4:17, « En effet, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et dans le grec, le poids éternel, c'est un fardeau de gloire. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, là, c'est imaginez, là, qu'on fait pour vous une fête surprise au Centre Canadian Tire. Vous rentrez, puis là, tout le monde qui est là, commence à applaudir, commence à siffler, Puis il y en a un qui prend le micro et dit, « Hey, moi, là, j'ai été touché parce que j'ai vu le Seigneur faire ça dans ta vie. J'ai vu le Seigneur faire ça, puis ça m'a inspiré, puis ça. » Puis là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Puis à un moment donné, il y a tellement d'émotions, puis c'est tellement comme grand que c'est comme tu veux exploser. Le poids de gloire est trop fort. Un exemple de ça, c'était le Rocket. Quand, en 1996, il était au Forum, puis il y a eu une ovation de 16 minutes. Puis à un moment donné, tu le vois sur la vidéo, si vous regardez la vidéo, à un moment donné, là, pff, faut que ça arrête, c'est trop, là, c'est trop. Mais dans l'éternité, il va y avoir ça, ce poids éternel de gloire. Mais il y en a qui vont, ça va être un petit poids. Là, je ne fais pas de jeu de mots, là. Mais d'autres, ça va être un énorme poids de gloire. Mais on peut se laisser distraire sur cette terre par des futilités, puis se réveiller à un moment donné et dire, « Hey, à quoi je J'ai bâti ma vie, j'ai couru dans ma vie pour ça. » Mais lorsqu'on vit dans la vérité, le Seigneur nous rappelle, dit, « Regarde, il y a quelque chose de plus grand, de plus précieux. » Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que d'aimer et d'être aimé? Mais lorsque ça vient de Dieu, ça produit une joie, puis ça va produire dans l'éternité un poids éternel de gloire. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'au verset 9, il va dire, « Quiconque s'écarte de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ a le Père et le Fils. » Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 10, « Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, ne le prenez pas chez vous, ne le saluez pas. » Là, il n'est pas en train de dire, un chrétien comme ça, il est en train de parler de ces prédicateurs itinérants qui colportent, puis qui apportent un message, c'est un mot comme... qui apporte un bagage d'enseignement qui est contraire à l'enseignement des apôtres. Parce qu'il dit au verset 11, « Car celui qui le salue s'associe à ses mauvaises œuvres. » Et donc, ce qu'il ne voulait pas, l'apôtre Jean, c'est que, hey, il vient chez vous, les gens voient que c'est une église, et puis, il y a un faux enseignement. Et là, ici, il n'est pas question, par exemple, des éléments secondaires, par exemple, est-ce que le Seigneur revient chercher les siens au milieu de la tribulation, au début, à la fin. Ce n'est pas dans des éléments, c'était vraiment la base où est-ce que Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, il est le Messie envoyé de Dieu pour être sauvé. C'est comme en d'autres mots, si, imaginez, on fait prêcher un témoin de Jéhovah qui ne croit pas à ce que Jésus est Dieu. Je veux dire, ça n'aurait pas de sens, mais c'est comme le parallèle qu'on pourrait dire. C'est à peu près ça. À l'époque, là, si on fait le parallèle, c'est ça. Alors, non. Oui, est-ce que ça veut-tu dire que si tu rencontres un témoin de Jéhovah, tu dois le mépriser puis tu ne dis pas salut? Non, c'est dans le sens que associe-toi pas à sa théologie. Mais si tu le rencontres puis tu as des bonnes conversations puis le Seigneur t'appelle à l'aimer, oui, on est appelé à aimer tout le monde. Et c'est pour ça parce que, écoutez, dans Job 6, 14, ça nous dit que justement, si un frère abandonne les voies du Seigneur, il a quand même droit à la miséricorde. Alors, est-ce que la parole de Dieu se contredit? Ben non, jamais de la vie. Alors, c'est pour ça qu'on est appelé à donner de la miséricorde puis faire du bien à des gens, même si ils ont des temps difficiles. Il faut avoir du discernement. Et c'est pour ça qu'il faut lire cette lettre-là dans le contexte puis dans l'intention de l'auteur. Et ce qu'il dit au verset 12, « J'ai beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. J'espère venir chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit complète. » Et donc, on voit ici que l'objectif de Jean n'est pas de tomber sur la tomate de ses auditeurs, mais l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir une joie complète. Vive la joie de ce que c'est marcher dans la vérité, et marcher dans la vérité de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est intéressant, dans une époque où est-ce qu'on a le choix entre les textos ou le téléphone, eh bien, de parler de vive voix, ça produit plus de joie que d'écrire. Et, bon, j'avais plein de choses là-dessus, mais le temps file, c'est fou. Et c'est pour ça qu'il dit, « J'espère venir chez vous et vous parler de vive voix afin que votre joie soit complète. » Et on voit vraiment l'amour, tout l'amour que Jean a pour les disciples qui sont dans cette maison-là, pour ces gens-là. Et Jean veut mettre en valeur la vérité parce que c'est sur la base de la vérité qu'on découvre Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est la base de la vérité qu'on développe de l'amour les uns pour les autres. C'est sur la base de la vérité qu'il y a une joie qui s'installe au milieu de nous. Et c'est sur la base de la vérité qu'on cherche à s'associer à des gens qui génèrent cet amour, qui produisent de la joie. Et ça produit en nous le désir d'apporter cet amour et cette joie-là à ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui va donner de l'espérance aux gens de l'Outaouais, aux gens de la francophonie. C'est ce message de l'Évangile. Et peut-être toi, tu es sur la toile, puis ta conception de Jésus-Christ, c'est un prophète, un enseignant, un homme de bien, quelqu'un qui a fait des miracles, ou simplement un personnage historique. Mais je t'invite à lire le Nouveau Testament et découvrir Jésus comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. J'invite les musiciens à s'approcher, on va se recueillir pour demander au Seigneur de nous rappeler ce que Dieu veut qu'on médite cette semaine et qu'on le laisse travailler nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'il y a plein de beaux trésors dans cette lettre-là. Ô Seigneur, tu veux qu'on marche dans la vérité, pas pour nous détruire ou nous démolir, mais au contraire, pour produire de la joie. Et ma prière pour cette Église, c'est que personne ne puisse se laisser égarer, se laisser détourner de la vocation que tu as pour chaque personne ici, afin qu'on puisse tous se réjouir dans l'éternité et tous être fiers de voir des membres de cette Église être honorés et qu'ils puissent te relancer leur couronne en disant, « Mais si tu peux me donner cette joie aujourd'hui, tu peux faire cet éloge, c'est à cause de toi. » Et qu'ensuite, tous ces applaudissements reviennent à toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui es à l'origine de ce si grand salut, de cette vie merveilleuse. C'est toi qui es digne de louange. Ô Seigneur, que l'Outaouais et la francophonie puissent découvrir que tu es digne de louange, tu es digne d'acclamation, tu es digne d'être loué parce que ton salut est grand. Il est inatteignable, mais tu nous le donnes par grâce. Et merci pour la croix qui nous donne d'avoir accès à cette grâce. Dans le nom de Jésus, amen. Merci, que Dieu vous bénisse et bonne semaine.